m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Au Kenya, la Cour suprême a invalidé le vendredi dernier l'élection présidentielle du 8 août dernier, à l'issue duquel le président sortant Uhuru Kenyatta a été proclamé vainqueur. Elle a ainsi ordonné la tenue d'une nouvelle élection présidentielle dans les 60 jours. S'exprimant à la presse sur cette décision, le député national Henri Thomas Lokondo, président du parti politique l'Union Congolaise pour la Liberté, UCEL en sigle, se dit satisfait et affirme que c'est pour la première fois en Afrique qu'un tribunal annule les résultats d'une élection présidentielle. Cela, ajoute-t-il, doit inspirer les autres cours suprêmes et constitutionnelles qui sont inféodées par le pouvoir en Afrique. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez participer à ces débats en nous rejoignant donc en direct sur notre page Facebook ou bien nous appeler au 09 97 06 49 69 ou bien au 09 07 06 63 30 pour votre intervention en direct. Nico Okalambay est à la réalisation de ce programme mis en onde par Mimi Kindou. Ce programme est supervisé par Martin Sebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Sylvain Louma pense que Thomas Lokondo n'a pas péché, il ne dit que la vérité. La plupart des hautes cours africaines sont inféodées, politisées, au lieu de dire les droits, ils disent la politique. Aloïs Sakaji estime qu'il n'y a pas un autre moyen par lequel on devient plus grand que par l'imitation. Cela ne fait pas longtemps au Burkina Faso, une leçon a été offerte à la RDC quand le peuple burkinabé a chassé du pouvoir le chef de l'État par un soulèvement populaire en Angola, bien que le pouvoir appartient au MPLA, mais au moins nous avons retenu une petite leçon, celle du changement physique de la personne du chef de l'État. Et aujourd'hui, la leçon kenyane tombe à point nommé pour interpeller nos institutions à vivre pleinement leur indépendance et leur neutralité dans leur façon de travailler, car nous avons besoin d'un État de droit. Marcus Kasereka Bitaha dit que vu les tensions qui se présagent déjà et qui pouvaient se solder par des violences populaires, les camps de Kenyatta peuvent avoir demandé à la Cour d'annuler les élections afin de baisser les tensions de l'autre camp et que la même carte frauduleuse se joue pour les prochains scrutins parce que les partis adverses n'aura plus à revendiquer étant donné qu'on ne peut plus rester à annuler l'élection par élection. En somme, ce qui se passe au Kenya est une pure machination politique. Cela se justifie par le fait de l'amalgame, qui plane sur les reconnaissances de la victoire des Kenyatta, des grandes puissances occidentales qui avaient déployé leurs observateurs au Kenya afin de donner un certain crédit à la victoire de l'un des candidats. Maître Gervais Muganza estime que la décision de la Cour suprême de justice kenyane, qui témoigne son impartialité, son indépendance et son intégrité, ça fait l'excellence du droit, car dit-on, dans un état de droit, c'est la volonté du peuple, la démocratie et la primauté du droit qui doivent être au-dessus de tout. Alain Bolodja, lui, pense que l'analyse de Thomas Lokondo peut aussi apparaître approximative et partant simpliste, car il oublie d'intégrer d'autres paramètres pour majeur. 1. Il devait se rendre compte que le respect du délai n'a pas garanti la bonne tenue des élections. 2. L'opposant historique ne s'est pas assermenté dans son jardin. Il a plutôt contesté les résultats. Le pays est en mesure d'organiser consécutivement deux élections en l'intervalle de 6 mois. 4. La fameuse communauté internationale qui avait déjà entériné les résultats provisoires s'est mise en porte à faux avec cette démarche de la dite cour. Mesdames et messieurs, une fois encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons le plaisir de recevoir en ligne Maître Richard Bondo qui est avec nous. Bonjour Maître.
Oui, bonjour.
Vous êtes avocat à la Cour pénale internationale et en même temps avocat après la Cour d'appel de la Gombe et aussi avocat au tribunal spécial pour les Libans. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée des jeux, comment jugez-vous l'attitude de la Cour suprême kenyane?
D'une fierté africaine qui a donné une leçon au monde entier que l'Afrique a des enfants dignes, capables de civilisation. C'est pour cela que moi, Je me suis incliné devant les juristes kényans, les juges kényans, les hauts magistrats kényans, pour dire, nous sommes fiers d'avoir ces bénéfices appris comme
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne, Maître Richard. Est-ce que vous pouvez pas vous déplacer de là où vous êtes? Parce que là, on est en train de vous perdre petit à petit, hein. Voilà, donc, et puis, je ne sais pas si vous pouvez peut-être changer votre position.
Je me suis déplacé un peu, mais non. Vous m'entendez?
Oui, allez-y, je crois maintenant ça va.
Oui, je disais que c'est un précédent judiciaire important pour toute l'Afrique et le monde entier. Parce que c'est pour la première fois que des juges africains examinant l'élection présidentielle entre un président sortant en plein exercice, il sollicite un nouveau mandat et un président candidat, disons un candidat président de la République, et la Cour a fait un exploit. Et quel est-il cet exploit? C'est que comme l'enseigne la doctrine, le juge électoral est un juge de pleine justice, de pleine juridiction. Le principe de pleine juridiction, c'est que là où le juge constate que dans le chef d'une partie, il manque quelque chose, lui-même prend l'initiative, il est actif pour réunir mettre la main sur ce qui manque afin de rendre une justice équitable. Au Kenya, qu'est-ce qu'on a fait? Étant donné que la juridiction électorale doit faire ce qu'on appelle la pleine juridiction, les juges de la Cour suprême ont demandé à la commission électorale de déposer tous les procès-verbaux. Tous les procès-verbaux. Il n'a pas été laissé la latitude uniquement aux parties litigantes d'amener les procès-verbaux, mais la Cour s'est montrée active à imposer à la commission électorale le devoir de lui transmettre tous les procès de tous les centres de vote. Et tous ces procès-verbaux ont été examinés, compulsés un à un par la haute cour de justice du Kenya pour arriver au résultat qu'on nous a donné. Donc oui. C'est des irrégularités constatées dans les procès verbaux que la cour a décidé d'annuler l'élection présidentielle. Et là aussi, une autre leçon qu'on nous donne hier, il faut que je termine par là, c'est la vertu de deux tours. Voilà que le peuple kenyan aujourd'hui va s'attendre dans deux mois à une nouvelle élection pour que, une fois pour toutes, on mette fin à des contestations.
Voilà, alors
une élection à deux tours.
Oui,
c'est la vertu de ce qui s'est passé au Kenya.
Oui, Maître Richard, juste une question de curiosité, en lisant un internaute qui nous a écrit, au fait, les gens doutent quand même de cette véracité sur l'attitude de cette cour qui qualifie, au fait, c'est juste pour calmer les tensions qui s'est présagées déjà. Alors, la cour a décidé de calmer un peu cette tension qui montait d'un cran. Est-ce que vous pouvez penser comme eux, qu'il s'agisse là, d'une stratégie pour passer les résultats du président sortant de manière un peu propre?
Non, ça c'est de la spéculation malveillante. Vous savez, nous devons faire confiance à des juges qui se sont montrés dignes. Pour preuve, même le président Uhuru Kenyatta a critiqué la cour, très fâché, et a même manqué de sa sérénité. Il a parlé avec beaucoup d'émotion parce que il sait que il est maintenant sur une pente très glissante. Il est incertain au contour, c'est lui qui reviendrait, qui reprendrait le fauteuil du président de la République. Donc ceux qui racontent cela, c'est des gens qui ne connaissent pas ce que c'est un juge. Un juge électoral, c'est comme je l'ai dit, c'est celui qui a en tête le principe de la pleine juridiction. C'est-à-dire, lui va au-delà de ce que les partis, les justiciables lui amènent. Il va au-delà du principe dispositif. pour rendre une saine justice et la justice comme le principe dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques le dit, une justice équitable. Donc, les juges n'ont fait que leur devoir.
Leur devoir.
Comme l'enseigne Auguste Comte dans le système de politique positive, Auguste Comte dit, nul n'a d'autre droit que de remplir son devoir. Les juges n'ont fait que remplir leur devoir et je ne crois pas
Oui. Voilà, merci.
C'est une accusation tout à fait gratuite. Les juges vont exercer ce qu'on appelle, vont appliquer ce qu'on appelle le principe
de la pleine
juridiction quand on est juge électoral.
Merci beaucoup, maître Richard. Nous vous gardons en ligne parce qu'on va échanger de manière citoyenne avec les auditeurs qui nous ont aussi, proposé leurs commentaires sur notre page Facebook. Et nous rappelons que vous êtes avocat à la Cour pénale internationale, avocat près la Cour d'appel de la Gombe et aussi avocat au tribunal spécial pour les Libans. 09 97 06 49 69 ou bien les 09 97 06 63 30 pour votre intervention en direct.
Grande interview. L'actualité en profondeur sur Radio Okapi, c'est dans Grande interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordés avec les spécialistes et les acteurs qui font l'actualité. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, 13h05 et 19h35.
Jean-Claude, vous êtes à Kindou, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Julien, bonjour aussi à tous, à l'invité Richard Bon.
Est-ce que vous estimez que c'est une leçon pour les différentes cours africaines et également une leçon particulièrement pour la cour constitutionnelle aujourd'hui de la RDC?
C'est une grande leçon, Julien. Permettez-moi d'abord que je puisse vous rappeler un dispositif biblique et même juridique qui dit « la justice élève une nation ». Et pour vous, je suis convaincu de comprendre que la justice élève la nation kényane. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est une grande leçon pour nous. Nous avions vu dans notre pays comment la Cour constitutionnelle a été, les juges ont été nommés de manière abracadabrante et voir aussi comment on était allé trop vite en besogne avec ces gens d'histoire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment nos honorables députés et surtout ceux de la majorité qui, à un moment donné, commençaient même à dire que non, il fallait réviser pour qu'on puisse quitter de 9 jusqu'à 6. Tout ça pour faire des manigances. Moi, j'aimerais quiconque a des filles qui dit que la République kényane ou au Kenya, il n'y a pas une démocratie. Il y a une démocratie. Imaginez-vous depuis l'époque du président Daniel Arap Moi, où on avait connu des alternances en Afrique. Personne ne me dira pas que au Kenya, nous avons vu le pays qui n'a pas été en mesure d'organiser des élections après 5 ans. Nous avons vu, bien qu'il y a eu des tâtonnements ça et là avec l'avènement de Moïse Kibaki, mais on a vu, après chaque 5 ans, on organise des élections. Et après 10 ans, quand un président de la République arrive au terme de son mandat, il laisse positivement le pouvoir et il y a un autre, que ce soit de son parti, de son cas, que ce soit de notre cas. Donc ça, c'est une grande leçon pour nous et surtout dans notre pays, la RDC, qui aujourd'hui, nous sommes à la croisée du chemin. On ne sait pas, on voit où et on est en train de voir comment nous tâtonnons et nous sommes en train de reculer à 1000 km au lieu d'avancer. Il y a un principe. Et ce qu'il dit, construire une maison sans pouvoir l'achever, c'est détruit, c'est la détruire. Personne ne me contestera. Nous avons vu, depuis 2006, nous étions tout le monde était heureux de voir que non, les pays commençaient un bon élan. On commençait à aller vers les élections et vers une alternance. 2011, nous avons vu Ngoï Mulunda, à 6 mois ou à 7 mois des élections, il avait organisé des élections et après sa nomination, il avait organisé des élections. Aujourd'hui, depuis 2016, nous sommes presque à une année et nous continuons. C'est comme si on n'avait jamais organisé des élections dans ce pays. Donc, c'est une grande leçon pour l'Afrique. Moi, personnellement, je me dis, je suis heureux et je devrais même être né Kenya parce qu'avoir ce qui se passe avec l'immaturité de nos politiciens, surtout des cas de ceux qui nous dirigent, vraiment c'est regrettable, Joël. Je ne sais pas si vous avez une
question. Merci beaucoup, Jean-Claude. Vous avez parlé de la régularité de l'organisation des élections au Kenya, qui peuvent constituer une opportunité d'ailleurs pour d'autres pays africains, et notamment la RDC, et aussi la manière dont les juges ont pris à bras les corps cette question des contentieux et qui ont répondu en tout cas à la requête de l'opposition. Mais vous avez fustigé la façon dont les juges au Congo ont été, le mode de désignation des juges au Congo, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il entorse et qui fait que ça doit être une leçon, mais c'est difficile parce que notre cour constitutionnelle risque de ne pas être effectivement indépendante. Merci beaucoup. Oui, Jean-Claude.
Oui. S'il vous plaît, je vais m'arrêter par là. Vous dites, nous sommes en train de voir aujourd'hui comment nous avons dans notre pays trois pouvoirs. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir législatif. Mais quand les deux pouvoirs sont pris en otage par le pouvoir exécutif, c'est regrettable. Tout notre siècle, surtout dans les pays francophones comme au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, où nous voyons en matière juridique comment ces pays sont avancés. Mais ici, chez nous, au lieu d'avancer, nous sommes en train de
reculer. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci beaucoup, Jean-Claude. Ifaso, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Radio Café.
Alors, mode de désignation, comme vient de le dire Jean-Claude, posait déjà problème au début pour l'exemple de la RDC. Est-ce que vous estimez qu'effectivement, ce qui vient de se passer au Kenya, c'est une grande école pour les autres cours africaines, et notamment la RDC?
Oui, vraiment, ce qui vient de se passer au Kenya, ça fait la fierté de l'Afrique. Ça fait vraiment une grande fierté. Et je vais un peu voir, est-ce que la Cour suprême de la Kenya s'est limitée seulement à annuler les élections? Tout ce que le président Kenyatta a fait, moi je penserais à ce qu'il les condamne, mais qu'il soit condamné même et qu'il ne se présente pas comme candidat aux prochaines élections. Ça a vraiment une fierté pour l'Afrique, ça a donné vraiment des grandes valeurs pour l'Afrique. Mais dans d'autres cours africains, monsieur le journaliste, c'est de l'amalgame. Le pouvoir exécutif, le pouvoir domine ici toutes sortes de pouvoirs, sur les droits, tout, donc la politique est en train de dominer. Lorsque un juriste prend une décision, c'est la politique qui vient l'imposer. Il n'y a pas vraiment une justice dans d'autres cours. Je vais prendre peut-être l'exemple d'ici au Congo. Un gouverneur qui est déchu par une motion, jugé, réhabilité, mais on l'empêche de retourner. Voyez-moi, ça c'est la justice, ça c'est la politique, ça c'est quoi? Nous ne comprenons vraiment pas la philosophie de la justice en RDC, la philosophie de la justice en Afrique. Il n'y a pas de rationalité dans
voilà.
Dans
les merci beaucoup, merci beaucoup, Ifaso. On va voir avec notre invité par rapport à l'exemple que vous venez de donner, la cour qui prend par un arrêt la réhabilitation d'un gouverneur au Katanga, à la Tuapa ou ailleurs. Et effectivement, c'est les pouvoirs exécutifs qui, disons, n'exécutent pas cet arrêt qui est du reste opposable à tous et qui est sans appel. Merci beaucoup. Adrien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Bienvenue.
Bonjour JR, bonjour Annette et Richard et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre contribution?
Il s'agit d'une réaction très très louable de la Cour suprême kenyane, comme l'avaient dit déjà mes prédécesseurs, et surtout la réaction du président Uhuru me met très à l'aise parce que les politiciens africains croient que la démocratie c'est une imposition occidentale. Mais là, nous nous rendons compte que c'est la prise de conscience tout simplement de l'homme africain. Alors, je jumelle un peu ce qui se passe au Kenya avec ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et dans notre pays, je me rends compte qu'il s'agit de la prise en otage constitutionnalisée du pouvoir judiciaire par le pouvoir politique. Comment? Je m'explique. Lorsque nous prenons l'article 147 de la Constitution, et le clair dit, cette disposition dit que le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. Mais quand vous lisez l'alinéa 3 dit que la justice est rendue sur l'ensemble du territoire au nom du peuple congolais. Mais l'alinéa qui suit nous dit que le cours des tribunaux rend encore le jugement au nom du président de la République. Contradiction. Voilà déjà la faiblesse de notre pouvoir judiciaire. Je vais à l'article 158 JR. L'article 158 de notre Constitution stipule que la Cour constitutionnelle comprend 9 membres. Dans la désignation, 3 nommés par le président de la République, 3 venus du Parlement par Congrès et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, que pourquoi, la question maintenant qu'on se pose, pourquoi est-ce que la Cour constitutionnelle congolaise n'est effectivement libre, parce que c'est la haute juridiction dans notre pays. La difficulté commence d'abord par la désignation, pour le président de la République lui-même. Or, quand on passe au Parlement, pour qu'une décision passe au Parlement, il faut que la majorité puisse donner son accord. Or, qui est l'autorité morale de la majorité? C'est le président de la République. Donc, pour que trois juges soient nommés par le Parlement, il faut que le président de la République donne sa proposition à la majorité qui doit être validée. Si nous allons aux trois autres membres qui sont au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, nous nous rendons compte que les membres du Conseil supérieur de la magistrature, ce sont des magistrats. Or, tous ces magistrats-là sont nommés par le président de la République. Sur base du principe, du principe de la nomination ainsi que de la révocation, les mêmes magistrats doivent obtempérer à un mot d'ordre qui doit venir relativement du président de la République pour valider les trois juges. Donc, nous en sommes toutes, nous nous rendons compte que le 9 juges provient immédiatement de la présidence de la République. Pourquoi ? Quelqu'un a déjà soulevé la difficulté, n'est-ce pas, du fonctionnement de la Cour constitutionnelle aujourd'hui dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a une confusion. La Constitution dit que le président de la République est légitimé par la Cour constitutionnelle. Pourquoi ? Il doit prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Mais de l'autre côté, en antipode, vous trouvez que les membres de la Cour constitutionnelle doivent encore être nommés par le président de la République. Mais c'est une chose et son contraire. Voilà pourquoi, dans cette étude que nous avons nommée la prise en otage constitutionnalisée, nous avons fait des propositions. Toutes les propositions. À la tête du pouvoir législatif, vous avez notamment le président de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat, qui sont élus au suffrage universel direct. À la tête du pouvoir exécutif, vous avez le président de la République qui est élu au suffrage universel direct. Mais, malheureusement,
voilà.
À la tête du pouvoir judiciaire, il n'y a pas eu des élections. Il y a peut-être la nomination. Or, la Constitution dit que c'est le pouvoir judiciaire qui doit...
Voilà, merci beaucoup. Alors, vous partagez l'avis que c'est quand même une école, une leçon pour les différentes cours africaines. Et vous avez là évoqué les cas de la RDC qui souffre, au fait, pour faire asseoir réellement son pouvoir judiciaire. Vous avez évoqué l'article 145 de la Constitution, également l'article 158. Et vous avez eu à interpréter l'article 164 qui parle de la Cour constitutionnelle, qui est le juge pénal du président de la République et du premier et ministre. Et le paradoxe pour vous, c'est que le président de la République désigne les trois membres qui composent les 9 membres de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, Adrien. On va prendre Xavier Messé, qui est le directeur de rédaction du groupe Anecdote au Cameroun, qui est journaliste et qui a un regard un peu africain par rapport à cette question. Xavier Messier, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors vous avez suivi l'actualité de près, l'élection annulée, invalidée au niveau du Kenya. Quel est le regard que vous avez, le regard africain aujourd'hui? Est-ce que ça constitue une leçon, une école pour d'autres cours suprêmes ou encore de cours constitutionnelles africaines?
Ben, je voulais dire que ne pas constater que cette décision de la Cour est d'une très grande importance au niveau de l'évolution de la démocratie en Afrique. Mais il faut quand même dire que si les choses sont bonnes, il y a un temps, un juge courageux en Côte d'Ivoire avait pris une décision qui n'allait pas dans le sens des autorités locales. Bon, bien sûr que ce dernier avait été sévèrement sanctionné, il avait pratiquement été exclu, n'est-ce pas, de milieu judiciaire de Côte d'Ivoire. Mais cela a une dimension moins importante que ce qui vient de se passer. C'est pratiquement un séisme politique que nous venons de vivre au Kenya. Alors, vous savez, on a souvent dit que l'Afrique est un continent où très rien avance, où avance à un rythme très lent, ça il faut l'avouer. Mais ce qui vient de se passer au Kenya est une leçon qui va encourager, ça c'est certain, des juges en Afrique, mais surtout dans la partie anglophone du continent. Il faut dire que ce qui s'est passé au niveau de l'élection présidentielle au Kenya est difficilement perceptible en Afrique francophone. Mais cela est quand même de nature à encourager les autres
partie du continent à évoluer tout au moins, à réclamer davantage de plus en plus indépendants de l'île. Nous avons ici dans notre continent, les trois pouvoirs fonctionnent de manière tout à fait dominante, c'est-à-dire l'exécutif a toujours la même mise sur les autres pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors, si ce qui vient de se passer au Kenya est aussi important que nous le constatons, cela est de nature à penser que les juges devraient conquérir leur indépendance. Le pouvoir judiciaire devrait conquérir son indépendance, tout comme le pouvoir législatif. Alors, il est évident que si le PARECA arrivait à se produire encore dans la partie d'Afrique de l'Est, c'est certain que ce qui s'est passé au Kenya par ce juge-là n'est pas rattaché et on sera de nature à avancer progressivement vers une séparation de pouvoir, vers une indépendance de plus en plus des magistrats. Et ça pourrait peut-être encourager la partie francophone qui est restée très, très anachronique, très attachée à l'Empire français. Ça pourrait peut-être lui permettre aussi de regarder de près ce qui se passe chez nous, chez leurs confrères de l'Est anglophone.
Alors, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui comme pesanteur pour une meilleure conquête de l'indépendance judiciaire en Afrique francophone?
Les présenteurs sont que d'abord les chefs d'État en Afrique francophone, tout au moins la majorité des chefs d'État en Afrique francophone, ce sont des gens qui sont généralement mal élus. Ils sont mal élus parce que bien que la démocratie, bien que le multipartisme soit consacré dans cette partie francophone du continent, mais le fonctionnement est calqué sur le modèle de parti unique, où donc le parti unique est très dominant, ou du moins le parti présidentiel est très dominant, parce qu'il est dominant, il donne un pouvoir exorbitant au président de ce parti, donc au président de la République. Alors ce qui fait que, étant donné cette position dans laquelle les présidents dans la francophone sont issus, cela leur donne la capacité de nommer tout le monde, de nommer tout le monde, tous les hauts magistrats en justice, de nommer les ministres, de nommer les directeurs généraux des entreprises. Alors, il n'y a pas de contre-pouvoir. La presse reste un tout petit peu flottante parce que lorsqu'un parti, lorsqu'un système est très puissant, il n'a pas de contre-pouvoir. La presse reste le seul contre-pouvoir, mais qui n'a pas de décision à prendre. Parce qu'elle peut sensibiliser, elle peut dénoncer des excès de pouvoir, mais il n'y aura pas de relais qui pourront faire franchir le pouvoir en place. Alors, cette situation, on la lit abondamment dans les pays d'expression française, contrairement à ce qui se passe dans les pays d'expression anglaise, comme en Afrique du Sud, comme au Kenya, il y a des exceptions. Par exemple, en Ouganda, il y a des exceptions, mais ce qui vient de se passer là est quand même de nature à faire réfléchir, n'est-ce pas, les autres contre-pouvoirs dans l'espace francophone du continent.
Merci beaucoup Xavier. Nous rappelons que vous êtes directeur de rédaction du groupe Anecdote au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation et aussi de nous donner ce regard africain sur cette actualité. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors on revient à vous, Maître Richard Bondo, avocat à la Cour pénale internationale, et également avocat près la Cour d'appel de la Gombe et aussi avocat au tribunal pour le Liban. Vous êtes avec nous, vous avez suivi un auditeur tout à l'heure qui, en comparant au fait ce qui vient de se passer au Kenya avec notamment ce qui se passe actuellement, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle à RDC, c'est les jours et la nuit.
Oui, merci beaucoup Gérard, mais je voudrais quand même rectifier par rapport à ce que cet auditeur, ce compatriote, a dit, l'article de la Constitution qu'il invoque, c'est l'article 149, c'est pas 145, mais à la linéa 4, ce n'est pas une, il n'y a pas une contradiction entre la linéa 3 et la linéa 4 de l'article 149 de la Constitution. À la linéa 3, il est certes vrai que la justice est rendue sur tout le territoire national au nom du peuple congolais, mais à la linéa 4, c'est l'exécution des décisions qui est faite au nom du président de la République. Ce n'est pas le président de la République, disons, c'est pas en son nom qu'on rend la justice. Mais on exécute les décisions de justice au nom du président de la République. C'est l'alinéa 4 de l'article 149 de la Constitution et non de l'article 145. Voilà, ce que je voulais préciser.
Merci.
Et puis, nous saluons les Kenyans, bien sûr, avant de revenir à notre cour constitutionnelle. C'est quoi? C'est que le président David Maraga est habité par l'indépendance de la justice. Son esprit, il dit, bon, je suis certes nommé, parce qu'il a été nommé par Uhuru Kenyatta.
Tout à fait.
C'est lui qui l'a nommé président de la Cour suprême. Mais dans l'exercice de ses fonctions, il a fait ce que, comme j'ai cité tout à l'heure Auguste Comte, il n'a rempli que son devoir. Vous m'avez nommé, mais pour servir la République, pas pour vous servir en tant que président de la République, en tant qu'individu Uhuru Kenyatta. C'est ce qui doit aussi habiter tous les juges en Afrique. Il est certes vrai que le président de la République ou l'empereur ou le roi dans plusieurs États, c'est lui qui nomme les hauts magistrats, même aux États-Unis, il les nomme. Mais quand ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ils remplissent leurs missions conformément aux lois de la République. C'est ainsi que chez nous, à l'article 153, alinéa 4 de la Constitution, et même l'article 150, alinéa 2, toujours de la Constitution, le juge n'est soumis dans l'exercice de sa mission ou de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi. Et tout à l'heure, vous posiez la question par rapport à notre cour constitutionnelle, mais cette cour a rendu un arrêt qui fait jurisprudence, parce que quand vous lisez la motivation dans l'arrêt Airconst 469 du 26 mai 2017, la Cour motive son arrêt en invoquant le préambule de la Constitution et même la Constitution, disant ceci, c'est pour éviter une zone de non-droit. La zone de non-droit, c'est ce qui assoit ce que l'article 1er de la Constitution appelle l'état de droit. Et l'état de droit, parmi les grands penseurs...
Oui, là vous évoquez, Maître Richard, là vous évoquez...
De l'état de droit,
oui, Maître Richard, là vous évoquez...
De droit, il...
Vous évoquez les cas de l'arrêt réhabilitant certains gouverneurs.
Oui, c'est le cas de l'arrêt Airconst 469, c'est l'arrêt qui a réhabilité Jean-Claude Kazembe Musonda avec son gouvernement provincial dans le Haut-Katanga. Je prends d'abord celui-là, ce cas-là. Pourquoi? Parce que dans la motivation de l'arrêt, les neuf juges, c'est le premier arrêt où les neuf juges est siégé, les neuf membres de la Cour. Ils disent, c'est pour éviter une zone de non-droit. Et la zone de non-droit, c'est ce que combat les grands penseurs, dont John Locke qui dit, l'état de droit, c'est l'état où il y a la force de la loi et non la loi de la force. Si, là où il y a la loi de la force, ça s'appelle état de nature. Mais état de droit, c'est l'état où il n'y a que la force de la loi. Et comme je voulais démontrer que à l'article 150, aux articles 150 alinéa 2, 153 alinéa 4 de la Constitution, les juges n'appliquent que la Constitution et les lois de la République, dans une certaine mesure, la coutume, pour autant qu'elle ne soit pas contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. Voilà pourquoi nous disons, par rapport à chez nous, les juges de la Cour constitutionnelle nous ont administré une leçon d'indépendance et d'équité dans l'arrêt Kazembe, qui est un arrêt aussi qui donne la fierté non seulement à ces juges-là, mais également à la nation congolaise.
Mais cet arrêt, oui, Maître Richard,
de bannir toute zone de non-droit en RDC.
Oui, mais Maître Richard, mais là, l'arrêt de la Cour a été balayé des revers de la main par l'exécutif en place. Parce que le gouverneur n'a pas été réhabilité une autre élection a été organisée.
Vous savez, bien sûr, il y a des individus qui se croient plus forts que les institutions. Mais c'est pour cela que je dis, il y a des individus qui croient qu'ils peuvent exercer la force sur les institutions, c'est-à-dire eux-mêmes représentent la force et c'est eux-mêmes qui sont au-dessus et des institutions et de la Constitution et des lois de la République. Mais les techniciens de droit que nous sommes, nous devons tout faire pour édifier cet état de droit. C'est pour cela que, par exemple, dans le cas du gouverneur Kazembe, c'est un compatriote qui par civisme engage des actions à même de faire consolider l'état de droit. C'est comme ça que, par exemple, il a attaqué la décision de la CENI devant la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il vient d'attaquer l'élection d'un autre gouverneur dans le Haut-Katanga devant la Cour d'appel de Lubumbashi. Donc, il faut avoir des compatriotes comme Kazembe pour lutter afin de consolider l'état de droit. Parce
voilà. Alors,
maître, le combat que oui, mène Kazembe, Richard,
une autre question.
Sans le combat que mène Kazembe, tout le monde dira c'est qu'un ministre culte quelque part, un ministre soi-disant quelque part,
oui, je crois que maître Richard
peut balayer un arrêt de la Cour constitutionnelle. Or, quand il me démontre que l'arrêt de la Cour
voilà.
constitutionnelle
on va pas se perdre, maître Richard. Tout à l'heure, il y a Xavier Messé, un de nos confrères, qui parlait de la conquête de l'indépendance. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui, partant de ce qui vient de se passer au Kenya, pour que finalement, des autres cours, notamment des cours francophones, puissent conquérir cette indépendance? Ça passera par quel préalable? Notamment
nous
pour nous,
à RDC. Une chance extraordinaire, GR. C'est encore un grand Africain qui deviendra même académicien français, je cite, le professeur Sanger. C'était lui le premier à donner l'idée du rendez-vous du donner et du recevoir. Donc la mondialisation a été conçue dans la tête d'un Africain qui s'appelle le professeur Sanger, en disant nous allons vers la civilisation de l'universel, c'est-à-dire le rendez-vous du donner et du recevoir. Mmh. Voilà qu'aujourd'hui nous sommes plein dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Le Kenya vient de donner une leçon à toute l'humanité. Le Kenya vient de donner une leçon universelle.
Merci
c'est
beaucoup.
Un précédent judiciaire qui va servir dans tous les états du monde.
Merci beaucoup,
maître
Richard.
Seulement l'Afrique qui en bénéficie, c'est tout le monde. Donc je dis bien, nos juges, avec son précédent judiciaire du Kenya, vont dire, nous sommes dans la mondialisation, empruntons de bons exemples, suivons les bons exemples, et le bon exemple, le tout premier, nous est donné.
Au Kenya. Voilà.
Kenya.
Maître Richard, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps d'accueillir d'autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Je crois qu'il y a eu cette gymnastique qui a été faite au niveau de quelques dispositions constitutionnelles pour, au fait, replacer un peu la problématique dans son contexte et aussi comprendre le fonctionnement de notre cour, notamment par rapport à ce qui vient de se passer au niveau de la Cour suprême kenyane. 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 6330 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Maître Olivier, vous êtes à Guadolité, bonjour.
Et bonjour, monsieur J.R. également aussi, bonjour à tous les auditeurs de la radio KP.
Est-ce que vous pensez, comme vos prédécesseurs, qu'il s'agit là d'une leçon qu'on a donnée à d'autres cours suprêmes ou constitutionnels en Afrique?
Effectivement, monsieur J.R., je pense qu'à mon humble avis, je dirais que vraiment c'est une décision salutaire, une décision en principe qui interpelle vraiment la conscience des autres cours africaines, quoi. Si la cour kenyenne a approuvé aujourd'hui, je peux dire, son indépendance judiciaire à l'égard du pouvoir exécutif, qui en principe c'était un aspect qui manque dans la plupart des cours africaines. La cour kenyenne quand même a démontré aujourd'hui sa démocratie effective, une indépendance qui n'est pas seulement du nom, mais une indépendance ou encore une démocratie qui en principe est des actes. C'est un exemple vraiment à suivre afin de permettre aux autres cours africaines de pouvoir garantir la justice africaine. Si nous prenons même l'exemple même de la cour sud-africaine, a prouvé aussi sa capacité en poursuivant, en lançant une poursuite contre un chef de l'État en fonction pour avoir détourné le fonds public. Si nous prenons même l'exemple du Sénégal qui, en principe, avec cette cour spéciale qui a démontré aussi sa capacité en poursuivant et puis en sanctionnant un président dictateur qui, en principe, l'histoire lui est rattrapé.
Hussein Abdel.
On va voir qu'avec tous ces exemples de la cour kenyenne, de la cour sud-africaine, de la cour sénégalaise, cela montre quand même quelques exemples, monsieur J.R. Alors, parlons tout petit peu de la réalité de la cour congolaise. Vous allez voir, si nous voulons lire juste l'article 161, alinéa 2 de la Constitution, qui stipule très clair que et la Cour, elle juge des contentieux des élections présidentielles, initiatives ainsi que du référendum. Aujourd'hui, nous voyons voir qu'il y a même un problème quand la Cour réhabilite avec les élections des gouverneurs. La Cour constitutionnelle réhabilite un gouverneur, mais ce gouverneur est contesté par la CENI, voire par son parti politique. Nous voyons tout ça, ce sont des situations inexplicables. Je pense mieux que c'est une décision qui pourrait aussi, en principe, aider même la Cour congolaise afin de pouvoir harmoniser les choses.
C'est en principe adopter cette indépendance d'esprit.
Il faut aussi interpeller les autres cours africaines, puisque ça pourrait garantir, puisque ce qui manque à la Cour congolaise, c'est la garantie de l'indépendance des pouvoirs judiciaires à l'égard des pouvoirs exécutifs. Si le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et son indépendance est garantie, je pense que ça pourrait permettre à faire avancer les choses.
Merci. Merci beaucoup, Maître Olivier. Valérie, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour, J.R. Lungemolabung-Anji.
Quel est votre avis par rapport à ces débats?
Merci, je salue également l'invité, Maître Richard Bondo. Excusez-moi. J.R., je suis vraiment satisfait. Et surtout que cette information m'était tombée à 13h30, lorsque je suivais le journal RFI Afrique, alors que j'étais à table. Mon cher ami, ça c'est une très grande leçon. C'est une très grande leçon parce que elle est d'abord la première en Afrique. Quand je dis en Afrique, parce qu'il y a eu aussi d'autres cas, mais pas par rapport à la Cour constitutionnelle. Je me rappelle que, par exemple, l'Afrique du Sud, elle nous donne des leçons sur la réconciliation, le Nigeria sur l'alternance, le Bénin sur la réussite de la conférence nationale, la Gambie sur la réussite de la centrale électorale, et aujourd'hui c'est les Kenyans qui viennent de nous donner une grande leçon par rapport à la Cour constitutionnelle. Donc elle est la première. En tout cas, ça je ne peux que m'en féliciter. Et je voudrais que nos juges, que nos magistrats puissent en tirer des leçons. Parce que vous vous rappelez, lorsqu'il a été question du restant, donc, disons, d'un arrêt de la Cour constitutionnelle concernant le problème de...
L'interprétation de l'article 70.
L'interprétation, voilà. Oui. La Cour a même violé son propre règlement d'ordre intérieur. Dites-moi un peu, lorsque les magistrats sont capables de violer leur propre règlement d'ordre intérieur. C'est-à-dire, avant de violer la Constitution, on viole d'abord les règlements d'ordre intérieur qui le sont eux-mêmes élaborés. En tout cas, ça, c'est déplorable. Vous savez, je me suis toujours plaint d'une chose. Par rapport aux constitutions, je vous dirais que nous avons l'une des meilleures constitutions du monde. Parce que je l'ai quand même lu de bout en bout et j'en maîtrise pas mal beaucoup de paramètres, quoi qu'il soit technicien de formation. Deuxième élément, vous savez que nous avons un droit profond et nous avons des grands professeurs de droit. Malheureusement, autant il y en a qui sont grands, autant il y en a aussi qui se permettent de se prostituer sur le terrain politique. Voilà que nous n'avons aucun magistrat à la Cour pénale internationale. Tout simplement pourquoi? Parce que le critère d'abord, c'est la crédibilité. Or, nos magistrats, s'ils mettent du sérieux dans la crédibilité, nous irons un peu plus loin. Voilà que très tardivement, nous venons de gagner seulement un seul
Maître Valérie, nous avons suivi l'actualité. La Cour constitutionnelle de la RDC a pris même des arrêts pour réhabiliter certains gouverneurs qui ont fait l'objet d'émotions incidentées, de défiance, en le réhabilitant. Donc, pour dire que voilà, c'est petit à petit, nous tendons vers cette indépendance aussi.
Ah, une très bonne question, je l'aime bien, je l'adore même. Mais moi, ça ne me permet pas, ça ne me flatte pas pour jeter de fleurs à la Cour constitutionnelle. Elle l'a fait au moment où ce gouverneur-là était encore dans les bons droits de la majorité. Mais est-ce que maintenant que la majorité n'est pas d'accord avec ce gouverneur, si un tel arrêt devrait être pris par la Cour constitutionnelle, pensez-vous qu'elle se pencherait dans ce sens-là? Non. Je suis très mal placé pour lui jeter des fleurs. D'autant
merci.
Plus que l'initiative a été prise pendant que ce gouverneur était bien accueilli par la majorité.
Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, Valérie. Alors, on va se rendre rapidement à l'Afrique du Sud pour retrouver le professeur Mbata, qui est le président de l'IDJPG. Voilà, c'est une institution qui travaille d'ailleurs pour le bénéfice de la justice. Professeur Mbata, vous êtes avec nous depuis l'Afrique du Sud.
Oui, je vous écoute, merci.
Alors, on a suivi une communication de votre institution dénonçant déjà une tentative de la révision du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle de la RDC. En quoi vous trouvez qu'il y a un danger?
Bon, il y a un danger justement parce que vous savez, le ministre de la Justice avait amené un projet de loi au mois de juin, je crois, pour faire changer la loi organique et pourtant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. L'objectif, c'était de réduire le quorum des décisions de la Cour. Vous savez, dans l'état actuel des choses, notre Cour doit décider à la majorité, donc tous les 9 juges doivent être d'accord pour prendre une décision, ou bien 7 juges suffisent pour rendre la décision. Mais le ministre voulait faire changer la loi pour qu'on réduise ce quorum des réunions à 5, afin que la majorité, 3 juges seulement suffisent pour prendre une décision au nom de toute la Cour. L'objectif, c'était quoi? C'était d'écarter les 4 juges qui s'étaient abstenus l'année dernière et qui n'avaient pas voulu siéger. Alors, pour nous, une telle révision du règlement intérieur serait en violation de la Constitution et de la loi organique, et pourtant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Parce que nous pensons très bien que par cette manœuvre, la majorité présidentielle, à travers son ministre de la Justice, voudrait faire à RDC ce que la Cour constitutionnelle a fait au Congo-Brazzaville ou au Burundi, où la Cour a validé le projet de référendum constitutionnel et même certains cas de fraude électorale.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté juste de nous accorder cette minute dans cette émission. On va poursuivre cette émission avec vous, Maître Ngandou. Vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue.
Merci, je vous salue aussi, J.R.
Quelle est votre contribution?
Bon, une leçon sur le plan pédagogique, mais non dans les fonds. Moi, je pense que dans les fonds, la situation en Afrique reste la même. Sur le plan pédagogique, on peut se dire que c'est la première cour en Afrique qui a pu agir dans ce sens-là. Mais la réalité est que toutes les cours, ou soit les instances judiciaires, sont à la merci des exécutifs et de la politique. Ça, vraiment, je pense même sur le plan mondial. Mais il est vrai que les élections ont été annulées au détriment des Kenyans, des habitants du Kenya, ou soit des compatriotes du Kenya, dans le sens de pouvoir donner cette élection en Afrique. Mais en réalité, la deuxième élection qui sera organisée à leurs frères, aux frais du trésor public, ne va pas profiter à un autre candidat. Moi, je pense pas. Je pense que c'est celui-là qui sortira. On peut en soi annuler les élections dans le sens de les organiser
les
tout en sachant qu'on sera toujours vainqueur.
Merci beaucoup, Maître Ngandou. On revient à vous, Maître Richard Bondo, avocat à la CPI, et en même temps avocat après la Cour d'appel de la Gombe, et aussi avocat au tribunal pour les Libans. Vous venez de suivre les uns et les autres, mais je reviens sur une préoccupation qui vaut quand même son pesant d'or. Pourquoi seulement en Afrique australe ou de l'Est, que les choses marchent plutôt bien, contrairement à l'Afrique francophone?
Vous savez, il y a un des auditeurs qui a cité l'exemple du Sénégal, qui est un grand pays francophone, pays de Léopold Sédar Senghor, poète et académicien français, qui est un compatriote africain, un grand africain. Donc, et puis, je vous ai dit que c'est Senghor qui était le premier dans les années avant 60 même de parler de la civilisation de l'universel qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la mondialisation, le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, quelque part, les francophones ont aussi une longueur d'avance sur les anglophones, mais comme nous sommes dans la mondialisation, nous nous complétons, nous sommes tous complémentaires. Donc, il n'y a pas lieu à désespérer. Je dis simplement à vos auditeurs que Héraclite d'Éphèse, un grand philosophe grec, a dit: si tu n'espères pas, tu ne rencontreras jamais l'inespéré. Donc il faut espérer, compter avec nos juges qui sont là. Qui eût cru que le Kenya pouvait donner un exemple? Donc ne désespérons pas. Croyons d'abord à ces hommes-là qui gèrent la justice aujourd'hui, mais c'est nous les intellectuels, c'est nous le peuple qui devons, qui avons le devoir d'exercer des pressions. C'est pour cela que dans les différentes organisations, Émile Durkheim, qui est le fondateur de la sociologie, dit il faut des organisations sociales qui canalisent les attentes du peuple vers les décideurs et vice-versa. C'est-à-dire les outputs des décideurs reviennent à la population en passant par ces canaux-là. C'est pour cela que je dis c'est les ONG de défense des droits de l'homme, c'est les députés, c'est les syndicats, c'est toutes ces structures, les églises. Nous, nous devons avoir comme devoir de la vie politique nationale en démontrant et aux juges et aux politiques que le pays, la République démocratique du Congo, est notre patrimoine commun. Comme nous appartenons aux États civilisés, nous devons nous comporter en hommes civilisés et non en barbares. Parce que la tambouille de cette affaire du Haut-Katanga, mijotée, concoctée par le vice-ministre de l'Intérieur, ne peut pas l'emporter sur les hauts magistrats qui ont des gens qui ont étudié et parmi lesquels il y a des professeurs d'université qui ont donné des cours à ce ministre-là. Pour dire, nous quand même, nous avons un devoir, c'est de rendre justice. Et la justice, comme elle est rendue au nom du peuple, nous devons nous comporter comme elle, parce que nous sommes payés par ce peuple-là. Nous sommes payés par la République. Et voilà, c'est pour cela que je dis, il ne faut pas désespérer. Nous avons tout le droit de croire et d'espérer que la RDC marchera comme vient de nous donner l'exemple le Kenya. Nous ne sommes pas un pays tout à fait ratatiné parce qu'il y a encore des dignes fils. C'est pour cela que je dis qu'il faut que les gens relisent la motivation de l'arrêt Kazembe. Les juges, les 9 juges de la Cour constitutionnelle ont dit la Constitution de la République à l'issue du dialogue global et inclusif de San City. Cette constitution, c'est pour éviter que dans la République, il y ait encore des zones de non-droit. C'est ça l'état de droit. Mmh. Et même si ce n'est qu'un arrêt qui concerne Kazembe, mais il fait jurisprudence. Même s'il y a des gesticulations de M. Chadari avec son ami, son vassal Nanga Corneille, son vassal,
l'expression est quand même...
Des trucs qui ne feront pas boule de neige.
Si je comprends bien, Maître Richard.
C'est pompé quelque part et enfumé, mais l'arrêt Kazembe fera jurisprudence.
Voilà, donc je
et les juges ne reculeront plus.
Voilà. Est-ce que pour le cas d'espèce.
L'article 168 dit de la Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires ou obligatoires, opposables à tous les pouvoirs publics, aux autorités administratives et juridictionnelles, donc toutes les juridictions, aux autorités civiles et militaires, ainsi qu'à tous les particuliers. Donc, tous les Congolais doivent s'incliner lorsqu'un arrêt de la Cour est rendu, de la Cour constitutionnelle est rendu.
Maître Richard Bondo, nous rappelons que vous étiez notre invité, donc, pour échanger avec les auditeurs, et vous êtes avocat près la Cour d'appel de la Gombe, et en même temps, avocat au tribunal pour les Libans. Nous avons parlé donc avec vous de cette élection annulée au Kenya, avec possibilité d'une prochaine élection d'ici au 17 octobre prochain. Vous avez démontré que ça fait école aujourd'hui pour les différentes cours, les hautes cours de l'Afrique. Et déjà, ça marche bien, comme l'a dit d'ailleurs notre invité, disons un auditeur et aussi un intervenant de tout à l'heure au niveau de Cameroun. J'ai cité Xavier Messé, un de nos confrères, journaliste, qui est directeur de rédaction du groupe Anecdote. Nous devons vraiment suivre l'exemple de la partie anglophone en Afrique qui donne des bonnes leçons de la démocratie en Afrique. Et vous l'avez dit, les juges, quoi que nommés, devant, disons, lorsqu'ils exercent, il est obligé d'exercer en toute indépendance. Maître Richard Bondo, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt pour un autre numéro.
C'est moi qui vous remercie, JR. À la prochaine.
Voilà, nous disons également merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalambaï. Vous étiez nombreux à participer à cette émission sur notre page Facebook. Plus de 8000 personnes ont atteint ce sujet et l'ont commenté. Et merci de l'intérêt que vous avez accordé à ce débat. Nous prenons rendez-vous avec vous donc prochainement. Cette émission vous a été supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par JR Lungembo Lwabung. À très bientôt pour un autre numéro.